France Culture.
Esprit de Justice qui, ce soir, vous propose de vous faire rentrer dans une famille djihadiste. Quoi, enfin, une famille djihadiste dans laquelle tout le monde n'est pas djihadiste. Comment se sortir de la malédiction de naître dans une famille djihadiste ? Cela pourrait être le sous-titre du récit de Fatma A, notre invitée. Celle-ci se trouve être la demi-sœur de Boubaker El Hakim, l'un des djihadistes les plus dangereux que la France ait connu. Boubaker El Hakim était en effet l'auteur présumé de deux assassinats politiques en Tunisie. Il fut l'un des émirs les plus importants de l'État islamique avant d'être tué par un drone américain à Raqqa en 2016. Il a exercé son influence sur les frères Kouachi, qui écoutaient ses récits ou ses prêches dans la fameuse filière des buts de Chaumont. Il est supposé être le cerveau des attentats du 13 novembre à Paris. Et cette jeune femme fut mariée de force à un autre djihadiste très célèbre, Peter Sherif, qui vient d'être condamné en octobre dernier à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans l'attentat contre Charlie Hebdo. Alors le témoignage de Fatma est passionnant, car il montre le lien entre les dysfonctionnements d'une famille et l'engagement radical, et donc le continuum entre les violences intrafamiliales et la radicalité politique. L'idéologie islamiste renforce la toute-puissance que Boubaker exerce sur sa famille et sur le corps des femmes. Se trouvant sous la coupe d'un frère très violent et très autoritaire, puis d'un mari qui abuse d'elle, il a fallu beaucoup de courage à cette jeune fille pour résister à cette idéologie, alors qu'elle était coupée du monde et abandonnée par les institutions françaises. Car ce récit montre également la défection des systèmes de protection de l'enfance, de l'école ou de la police qui, pour son cas, n'ont pas fonctionné. C'est pour toutes ces raisons que Esprit de Justice a invité Fatma A pour décrypter à la fois les mécanismes intimes de la violence, de l'idéologie djihadiste, mais aussi la force de la volonté de vivre et l'aspiration à la liberté. Donc j'ai le plaisir ce soir de recevoir Fatma qui a raconté son histoire à Magali Serre dans un livre publié au Seuil sous le titre « Mon frère, le djihad, Daesh et moi », publié en 2025. Magali Serre est documentariste. Elle a travaillé entre autres sur le djihadisme et elle est la co-autrice de ce livre. Et pour apporter un contrepoint théorique, j'ai invité Ariel Planex, qui est anthropologue, chercheur associé au laboratoire Développement et Société de Paris 1, ancienne assistante spécialisée radicalisation violente à la Cour d'appel de Paris, dans le département de la lutte antiterroriste. Et il est aujourd'hui chef du pôle fait religieux et interculturalité à la mission de lutte contre la radicalisation violente à la direction de l'administration pénitentiaire. Et puis il anime un séminaire très intéressant intitulé « Approche anthropologique de la radicalisation sous le sceau de l'islam » à l'EHESS.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les trois, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Fatma de venir redire ce qui a été écrit dans ce livre. Alors on va prendre les choses depuis le début. Votre famille, est-ce que vous pouvez nous peindre votre famille rapidement ?
Bien sûr, bonsoir à tous. Donc ça fait aussi plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors ma famille c'est très complexe comme vous avez dû le lire. Donc en fait on est 5 enfants. Donc on est une fratrie, on va dire, on a grandi ensemble, sans père. Donc aucun d'entre nous a grandi avec son père.
Parce qu'il y a eu plusieurs pères.
Exactement. Donc ma mère, elle s'est mariée 3 fois. Elle a divorcé 3 fois. Et elle s'est même mariée bien avant, en Tunisie, avant même d'arriver en France. Mais ça, oui, on va même pas le compter parce que bon, elle a pas eu d'enfant avec.
C'est ça, elle a pas eu d'enfant, c'était que des mariages religieux.
Alors le premier, c'était civil.
Ah oui, d'accord.
En Tunisie, et par la suite, ça a été religieux.
D'un milieu assez pauvre en Tunisie.
Elle est de classe moyenne.
De classe moyenne. Oui. Mais un père qui était très peu affectif.
Pas du tout. Même.
Pas du tout,
c'est ça. Pas du tout, exactement. Que ça soit son père ou même ses frères. D'ailleurs, j'en parlais hier, c'est incroyable, c'est que ma mère, elle s'est toujours occupée de ses frères qui étaient en Tunisie Or que dans la norme, c'est un peu le contraire. C'est plutôt les frères qui doivent aider leurs sœurs. Mais mère, elle a toujours été là pour eux. Elle a toujours aidé financièrement. Elle a toujours épaulé leur famille.
Même quand elle était en France.
Même quand elle était en France et quand elle nous avait, nous, cinq. Donc vous imaginez que même financièrement, c'était vraiment... On essayait de vivre, en fait. Et elle, elle aidait constamment ses frères en Tunisie.
En travaillant dur.
En travaillant très dur.
C'est ça. Et vous prenez conscience un peu tardivement, d'ailleurs. Quoi, tardivement? Qu'en fait, vous êtes pauvre, parce qu'elle cherche à vous protéger.
Exactement.
De la pauvreté.
C'est surtout, je dirais aussi, c'est avec le temps. Parce qu'au début, il faut savoir que ma mère, elle faisait malgré tout des gardes d'enfants, elle faisait du babysitting, elle était nounou. Donc, il y avait même des fois, ils dormaient le week-end chez nous, je me rappelle, à domicile, les enfants. Elle faisait aussi le ménage. Mais ça a été surtout au moment, du coup, de la radicalisation de Boubacar. Où toute activité professionnelle, que ça soit en dehors ou à la maison, elle a été complètement arrêtée.
C'est ça, parce que c'était une femme vivante. Elle aimait la société, elle aimait les amis. Sa meilleure amie était juive.
Oui, Madame Melki, je me rappelle.
Voilà. Qui était. Donc une femme très sociale et très socialisée.
Alors je vais vous dire quelque chose. On me dit souvent que j'ai un peu le même caractère que ma mère.
Ah bon?
Eh oui, elle parle beaucoup, elle est très sociable, très souriante, très dynamique, elle se réveille très tôt le matin, elle fait le ménage, elle invite des gens, elle sort, elle était vraiment comme une femme...
Ça lui arrive de boire de l'alcool?
Pas du tout, heureusement d'ailleurs.
Oui. Oui, c'est
mais
ça.
Elle était vraiment sociale, il y avait toujours du monde à la maison, elle aidait toujours les gens, et tout d'un coup, en fait, tout ça lui a été retiré en vrai.
Alors retiré par quoi? Par qui?
Alors, par la radicalisation de Boubacar.
Oui.
Et je le dis encore une fois, c'est la radicalisation. Je ne vais pas dire le mot islam,
oui.
Parce que je prétends que ce n'est pas ce qu'il a pratiqué. Pour moi, ce n'est pas de l'islam qu'il a pratiqué. Donc, j'irais plutôt la radicalisation, l'extrémiste dans sa tête à lui. Parce que moi, je dis souvent que c'est sa religion qu'il a pratiqué. Ce n'est pas la religion musulmane.
Mais c'est ça, sa religion, parce qu'il a un caractère très très fort. Vous dites cette phrase qui revient souvent... On ne convainc pas Boubacar, c'est lui qui convainc les autres.
Exactement, c'est exactement ça. Il est très fort, très charismatique et aussi très violent depuis son jeune âge.
Il est violent avant d'être radicalisé.
Exactement, il est déjà violent, il est déjà très dur, il ne sourit jamais, il est toujours énervé, toujours fâché, il va toujours chercher des conflits. Et vous savez, c'est incroyable parce qu'il avait toujours tendance, même avant sa radicalisation, même à son jeune âge, toujours de nous prendre, c'est-à-dire, allez toi, tu vas me chercher un verre d'eau, tu vas me chercher ça, tu vas me faire ça. Il faisait jamais quelque chose tout seul en fait, à la maison. Vraiment, il aidait en rien, il ne rangeait rien et oui. Il nous demandait toujours de le faire à sa place.
Oui, il y a un détail intéressant, touchant, que dans votre récit, Fatma, c'est vous dites, il y avait des photos, et photos, vous avez regardé des photos de la vie d'avant, des photos de la vie où il y a des gens à la maison, où c'est sympa, ça circule, et des photos où Boubacar, il est près du sapin de Noël avec les cadeaux.
Donc, alors, c'est surtout, il y a une photo, d'ailleurs, je pense que j'ai même montré à Magali Serre, il me semble, c'est une photo que j'ai, parce qu'il faut savoir que la plupart des photos, il les a déchirées. Donc on avait...
Il voulait pas de traces du passé.
Non, en fait, pour lui, c'était illicite d'avoir des photos. Voilà, il prétend ça, d'accord? Moi, aujourd'hui, je suis musulmane, j'ai quand même des cadres de photos à la maison, ça fait toujours plaisir d'avoir un proche qu'on aime accroché au mur. Et en fait, il a tout déchiré comme photo, toutes les photos de notre passé. Donc les photos que j'ai, je peux vous dire que c'est un miracle de les avoir trouvées. Et j'ai une photo qui, elle, vraiment me laisse encore bouche bée aujourd'hui. C'est la seule photo où on voit Boubacar avoir un demi-sourire. Même pas un sourire entier. Oui. C'est un demi-sourire quand il était au collège.
Oui. Alors, avec une obsession de la pureté.
Oui, toujours. D'ailleurs, je vais vous dire, comme vous pouvez le voir, Boubacar, depuis avant, il était surtout obsédé par le fait qu'on ne doit pas fréquenter de garçons, on ne doit pas leur parler, et surtout, on ne doit pas montrer nos formes. Et vous savez, des fois, je me dis... C'est comme si c'était un pervers aussi. Parce que, vous voyez, quand on est un peu pervers, bah, en fait, lui, ça se trouve, il regardait tellement peut-être les femmes, mais bon, il va jamais nous le montrer, ça, hein, je peux vous rassurer. Mais il a tendance à toujours nous regarder de haut en bas comment est-ce qu'on est habillé. Est-ce qu'on va voir nos cuisses, nos fesses? Et je me dis, mais une personne normale ne fait pas ça. Moi, mon mari, aujourd'hui, avec qui je vis, quand je sors de la maison, il me regarde pas de haut en bas.
Il vous déshabille pas du regard, comme on dit.
Exactement, oui. Comme mon frère le faisait bien avant.
Donc une sorte d'obsession, d'ailleurs leur mot revient souvent quand vous parlez de lui. Il est un peu obsédé par les femmes qu'il déteste, par l'islam qu'il épouse, quoi, son islam, par le combat, par la politique. Il fonctionne à l'obsession.
savez, là, quand vous dites ça, ça me fait penser à quelque chose. Je me dis, en vrai, il n'a jamais cherché à se retrouver lui-même. C'est incroyable, hein. Ça veut dire qu'il a toujours été obsédé par nous, ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas, comment on s'habillait, où est-ce qu'on sortait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qui est à la maison, qu'est-ce qu'on doit regarder. Mais quand vous voyez en vrai, est-ce qu'il n'a même pas cherché un jour à aller voir, exemple, rendre visite à son père, qui était vivant, qui habitait à Nation, à Paris. Vous en rendez compte? Donc il n'a même pas cherché en fait à se retrouver lui-même, à se ressourcer. Et je pense que là, ça a été une très grosse erreur. C'est pour ça qu'on dit toujours de penser à soi un peu, de se ressourcer, de prendre le temps. Et surtout, quand on a un mal-être, d'essayer de comprendre d'où il vient. Et lui, j'ai l'impression qu'il avait un très... C'est même pas l'impression, c'est sûr. Il avait un gros mal-être et personne ne savait d'où ça venait. Et pourquoi? Parce que, vous savez, quand moi, mon père à moi, venait des fois me rendre visite quand on habitait encore à Paris 12e, vous savez qu'il me disait « Vas-y, va voir ton père, ce chien ». Mais pourquoi? Enfin,
il avait un problème avec son père qui n'était pas là.
Le pire, c'est qu'il n'a pas vraiment connu, il n'a pas vraiment côtoyé. Et en même temps, ma mère, elle a été séparée du père de Boubacar très jeune. Donc Boubacar, il était très jeune. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché d'aller voir son père, d'aller lui rendre visite, d'aller voir s'il est bon, il est mauvais, d'avoir sa propre version?
Ben, il craignait peut-être son autorité, non?
Peut-être. C'est vrai. Oui, c'est pas faux.
Parce que là, je me tourne vers Ariel Planex dans le tableau que commence à dresser Fatma. On voit beaucoup de choses. Alors, l'absence de père, mais je voudrais vous faire réagir sur le fait qu'il ne prend pas soin de lui-même. Il ne s'intéresse pas à lui-même. Il fuit lui-même dans une idéologie. C'est quelque chose qu'on va retrouver, ces êtres sans pensée, sous-entendu de pensée intérieure. Ça vous dit quelque chose, Ariel Planex ?
Oui, c'est intéressant parce que c'est pas un cas si courant. C'est-à-dire que c'est à la fois un djihadiste emblématique, il y a toute une histoire familiale où on retrouve beaucoup de traits communs. Et c'est quelque chose qui intéresse évidemment les sciences sociales quand on travaille sur cet objet. La part de la parentalité, de la famille, du lien à la sexualité, tout ça c'est extrêmement déterminant. C'était intéressant que vous mentionniez la possibilité perverse, parce qu'en travaillant sur ce texte, à un moment, ça apparaissait. Or, vous faites un récit, mais du coup, on interroge la part de l'analyse manquante et la genèse. Et effectivement, il manque quelque chose dans le récit pour comprendre tout à fait ce qui, au fondement de l'histoire de Boubacar el-Hakim, a déterminé son rapport à beaucoup de choses qui sont toutes problématiques. D'un espèce d'enfant roi dont on s'occupe sans cesse et que tout le monde doit servir, mais qui ne se sert pas lui-même. Et qui, en effet, quoique charismatique, ayant le goût d'être très présent dans les cercles d'autrui, il ne se construit pas cette stature autrement que sur le dos des autres. Et donc, voilà. Tous les rapports sociaux sont problématiques et instrumentaux. Et effectivement, ils vont se décliner de la place des femmes, de la question de la sexualité, de la place dans la famille, où évidemment, il essaye d'être ce père manquant. C'est un classique, le père est manquant, et donc le fait de ne pas avoir été désiré probablement, en tout cas, lui pèse à lui plus qu'aux autres, au point que ça devient une obsession et que ça va guider tout un tas de comportements de socialisation secondaire.
Et alors, il y a aussi un élément dans ce tableau dont on parle peu, mais qui est absolument central, c'est votre mère.
Oui.
C'est votre mère, et vous décrivez dans ce récit son abdication, sa lente abdication de sa statue de mère, au profit de son fils. Et c'est elle qui l'intronise aussi, ou qui renforce ce rôle-là, Fatma.
C'est vrai. Donc, elle a renforcé ce rôle, comme je pense, après, vous savez, moi, j'ai toujours un avis, quoi. Je suis,
bien sûr, bah oui, vous êtes dedans, vous êtes pas...
Voilà. C'est que, en fait, le fait qu'on n'a pas de père, il faut savoir que ma mère, elle a un caractère très, très, très fort. Donc, c'est pas le genre de femme qui est très souple, qui est très fragile. Pas du tout. Elle renvoyait tout le contraire. Elle était très forte. Et elle avait beaucoup de caractère.
Oui, il faut le faire aussi, d'élever 5 enfants.
C'est
tout
ça.
Seul, bon.
Mais des fois, je me dis, en même temps, peut-être qu'à un moment, elle était tellement fatiguée, quoi. Elle s'est dit non, stop. Et là, elle a fait cette erreur de tout, on va dire, laisser à Boubacar. Dans le sens, quand je dis qu'elle a laissé, c'est qu'il décidait de tout. Et ce qui est incroyable, il décidait de tout en tant qu'homme, donc homme de la maison, mais il ne travaillait pas pour nous.
Oui.
Donc en vrai...
Il rapportait rien.
Il rapportait rien. J'ai envie de dire, à un moment donné, quand tu vas être un homme, il faut l'être jusqu'au bout. Voilà. C'est pas tu viens, tu décides et tu fais ta loi à la maison, mais en même temps, il n'a jamais apporté quoi que ce soit. Je vais vous dire, il n'a jamais fait les courses. Il est jamais venu voir ma mère en lui disant « ça va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es triste ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à la maison ?» Il a jamais, même avant, auparavant, quand j'étais en CP ou en primaire, avant d'être déscolarisée, il est jamais venu voir nos devoirs, il est jamais venu me chercher à l'école, il nous a jamais fait sortir. Donc en vrai...
C'est ça, il avait le pouvoir sans la contrepartie.
Voilà, mais sur le reste, ça l'intéressait pas. Et c'est ça qui m'énerve en vrai. J'ai envie de lui dire, mais voilà quoi, t'as voulu faire les choses, fais-les jusqu'au bout.
Il rapportait rien, mais il vous a rapporté beaucoup d'ennuis quand même.
Beaucoup d'ennuis.
Oui.
Et je vais vous dire une chose, c'est que financièrement, ma mère a misé beaucoup sur Boubacar. Il faut le dire, hein. Elle a beaucoup misé sur lui. Moi, j'ai pas le souvenir, avant d'être en primaire, d'aller faire du shopping avec ma mère. J'ai pas ce souvenir. Et je vais vous dire une chose, je me rappelle même plus de ce que je mettais carrément. J'ai pas le souvenir d'être partie dans des magasins, dans des boutiques avec ma mère. Le souvenir que j'ai, c'est que ma mère sans cesse, elle lui achetait toujours des survêtements hors de prix pour lui faire plaisir, pour que monsieur ne fasse pas de conneries à côté. Et pourtant, il en faisait.
C'est ça. Et même quand il est en prison, vous dites, il arrive à toujours être habillé avec de la marque. Et,
oui.
Et même dans la détention, ça continue en prison. Ça vous surprend, Ariel Planex ?
Non. Mais ça fait sourire d'une certaine façon, la façon dont ces djihadistes s'accommodent de toutes les contradictions possibles, être halal ou non, ce qui convient à un moment donné, et c'est beaucoup d'efforts et une certaine science pour trouver les justifications ad hoc, religieusement fondées, pour soudain autoriser 2 heures de PlayStation ou le fait d'avoir manqué à une prière, parce que c'est très générationnel et c'est très culturalisé comme comportement, comme évitement. On fait pas le djihad de la même manière dans le 19e et en Syrie ou au Soudan, je veux dire, on n'a pas les mêmes problèmes.
Ça vous fait sourire, Fatima.
C'est comme le souvenir que j'ai, un très beau souvenir merveilleux. Quand je travaillais, je faisais du babysitting. Donc, il dit à mon frère qui me dépasse de 3 ans, il lui dit, va surveiller Fatma, peut-être qu'elle fait d'autres choses, qu'elle ne travaille pas. Or, que je travaillais vraiment pour aider ma maman et pour avoir, d'ailleurs, pour passer mon permis à cette époque. Et il dit que c'est donc illicite qu'une femme travaille, donc ok. Et à un moment, il m'appelle au téléphone, il était en détention, donc il avait un téléphone, bien évidemment. Et là, il m'appelle et il me dit, tu donnes 400 euros à maman pour m'acheter des ASICS. Et là, moi, qu'est-ce que je sors? Je lui dis, non mais, mon argent, elle est illicite, du coup.
Si l'activité est illicite, l'argent est illicite.
Ah, mais par contre, là, ça t'arrange. C'est incroyable, en fait. Ils prennent ce qu'ils veulent et ils délaissent le reste.
Ce qui frappe quand on lit votre livre, c'est que la religion est assez absente, en fait. Il n'y a que des ordres, l'imposition de normes extrêmement autoritaires. Votre frère est un tyran domestique, c'est, j'allais dire, tout ce qu'il est. C'est-à-dire que si on lui enlève ça et la carrière de combattant qu'il a pour le coup poursuivi avec une certaine opiniâtreté, il n'a rien.
Exactement.
Il
ne
s'est pas construit. Donc il n'existe
compris.
Qu'à travers le lien qu'il a sur autrui et on voit bien comment ça évolue de pire en pire. Peut-être que le retrait de votre mère, il a trait à ça aussi. Parce que ce qui est très paradoxal, il y a une histoire religieuse et il y a une histoire politique et politique de la religion dans votre famille et dans votre trajectoire. Et elle apparaît comme si de rien, à un moment donné, lors d'un voyage en Tunisie. Donc il y a un legs religieux, mais il n'en fait rien, il prend la religion comme prétexte et dedans, il met vraiment tout ce qu'il veut et il s'accommode effectivement d'un grand nombre de relations. On voit bien que quand même Ben Yetou lui donne des conseils à un moment donné pour dire non, elle peut aller à l'école, ça n'est pas un problème, regarde, c'est légitimé par tel et tel hadith, etc. Là, il n'écoute pas. Donc la religion n'est pas là, alors même qu'elle est centrale. C'est ce vide que vous décriviez d'âme errante, comme dit Toby Nathan, c'est-à-dire qu'il n'est pas tant vide qu'en quête permanente d'un contenu. Qu'il ne trouve pas alors qu'il est disponible.
Et qu'il remplit uniquement par sa psychologie et par ce qui va le servir. C'est-à-dire la religion ne joue pas ce rôle de fonction tierce, d'altérité absolue. Pas du tout pour lui.
Tout à fait, mais elle en joue un autre, qui est celui de la ritualité obsessionnelle, du rapport à la sexualité, la légitimation de sa violence. C'est aussi une façon de rendre la violence noble, là où en fait elle est dégradante pour tout le monde.
Il rend noble la violence et il y a cette obsession, une de plus, sur la pureté. Ça vous revient beaucoup, Fatma.
Oui, tout à fait. Et vous savez que ça, je me suis rendu compte quand j'ai grandi vraiment, quand j'ai pris beaucoup de maturité. Au début, je ne me rendais pas compte. Et c'est là où je me rends compte, effectivement, il a cette obsession qu'il ne faut surtout pas qu'un homme me touche. Enfin, même pas un homme. À l'époque, j'étais quand même gamine. On va dire qu'un garçon, quoi.
Oui. Et vous racontez ce détail qui est parmi tant d'autres, mais il faut retirer vos chaussures, parce qu'il y a un rideau qui sépare la salle, le living room, la grande pièce, et il faut que vous retiriez vos chaussures pour que les hommes qui rentrent ne voient pas la pointure.
Exactement.
Et ne puissent pas imaginer.
Imaginez. Donc, il est obsédé. C'est un pervers.
Bah effectivement, imaginez qu'on peut fantasmer sur ses chaussures.
C'est ça.
Et imaginez la pointure de la femme, et imaginez son pied, enfin, etc. Ça veut dire qu'il y a une véritable obsession pour les femmes, en fait. Et que c'est sa propre obsession contre laquelle il lutte en permanence.
Mais il le fait payer aux
autres. De façon violente, oui.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur les mécanismes, le fonctionnement d'une famille qui a produit un djihadiste, un des plus importants que la France ait connu, en compagnie de Fatma, qui a écrit son livre avec Magali Serre, Mon frère, le djihad, Daesh et moi, et Ariel Planex, anthropologue, Ariel Planex, qui a choisi de nous faire entendre cet air Arwak par Abdel Halim Hafez. J'allais vous demander pourquoi ce choix, mais j'ai vu à l'effet qu'il a déclenché dans le studio qu'effectivement c'était un air connu, Ariel Planex.
Oui, c'est une des plus grandes chansons d'amour du monde arabe, immensément connue par ce chanteur à la voix d'or, égyptienne, je dirais. Et c'était surtout pour évoquer toute la tradition de l'amour arabe qui est systématiquement reléguée derrière la violence. C'est aussi une façon de rappeler que non seulement ça ne leur appartient pas comme patrimoine, mais il est infiniment plus large que ce qu'ils en font.
Aux djihadistes, vous dites.
Oui, absolument. Aux djihadistes. Ou aux islamistes, ou au rigorisme. On ramène l'islam à son pire visage, alors que culturellement, il comprend énormément d'autres éléments qui pourraient, disons, qui gagneraient à être reversés dans la culture quotidienne et commune de chacun.
Ça vous a fait vibrer, Fatma, d'entendre cet air, vous le connaissez bien.
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, je pense même que ma mère, elle écoutait beaucoup Om Kaltoum.
Oui, bien sûr.
Mais il y a très longtemps.
Autre figure majeure. Oui, à chaque fois, ce sur quoi vous insistez l'un et l'autre, c'est cette absence de tiers, cette absence de principe, cette absence d'horizon, finalement, religieux quel qu'il soit. C'est une emprise où il n'y a pas d'espace d'un homme sur des femmes et d'autres hommes, Ariel Planex.
Oui, ce qui ressort et qui est assez perturbant aussi, c'est l'isolat complet, en fait. Vous êtes une famille née en France, tout le monde est totalement socialisé dans ce quartier de Paris, bien connu, qui n'est pas malfamé, même si...
Il n'est même pas en banlieue, on est à Paris.
Oui, on est dans le cœur de Paris, à côté, enfin, on n'est pas loin de ce qu'on appelle les quartiers bobos aujourd'hui. Les buts de Chaumont, ça embrasse une population intéressante et très diversifiée. Mais vous êtes là, et vous semblez, et j'ai envie de dire même vous-même, quand vous décrivez votre sortie dans le monde de la nuit et cette vie où vous essayez de vous échapper, vous découvrez tout. Vous découvrez tout, c'est-à-dire que entre la déscolarisation, le peu de relations, tout ce que vous décrivez comme relations, c'est dans le voisinage immédiat. Vous décrivez vos voisins. d'immeubles, pas les familles d'amis de l'école. Il y a peu de voisins, c'est très enclos sur soi. Et au-delà de ça, il n'y a pas de culture familiale très marquée, de tradition, on y reviendra peut-être, de transmission de cette histoire différenciée. Et alors, l'histoire plus générale, là aussi, on n'en a pas. Ça fait partie de cette dimension du vide qu'on rencontre souvent.
Il n'y en a pas, il y a quand même...
Il n'y a pas d'histoire, c'est qu'elle n'est pas parlée, elle n'est pas connue, et on se l'approprie de toutes les manières, de manière très libre.
Alors, vous étiez enfermé. Alors ça, oui, ça, vous êtes enfermé dans un appartement, dans un demi-appartement, parce qu'il y a ce rideau qui fait que vous pouvez pas. Bon, vous pouvez aller sur le balcon. Vous y allez d'ailleurs voir vos anciens.
Et en cachette. Hein.
Et en cachette.
Même ça, je le faisais. Bah oui, c'est interdit de sortir dans le balcon.
Ah oui.
Mais bien sûr.
Comment la voir
pour pas me voir.
Ah oui, c'est pas tellement vous.
On avait l'hôtel juste en face qui faisait un vis-à-vis, bien évidemment. Donc c'était surtout quand il allait faire la prière. Ça m'arrangeait qu'il aille faire sa prière à la mosquée.
Oui.
Ça m'arrangeait beaucoup.
Parce que pendant ça, vous pouviez sortir sur
Exactement.
Le balcon.
Exactement. Et vous savez, j'ai envie de dire, en fait, l'histoire d'être isolé, c'est exactement ça. Il y avait une isolation extrême. Et on s'en rendait pas compte. À l'époque, on avait aussi, faut savoir que tout au début, même ma mère, en fait, quand elle avait au début des connaissances, bien avant la radicalisation, elle était quand même serrée. Elle avait 3 copines. Je me rappelle des 3 copines. 1 Tunisienne et 2 Égyptiennes. Donc je me rappelle de qui. C'était très restreint. Et par la suite, avec sa radicalisation, quand je vous dis qu'on a coupé court...
Plus personne.
Et vous savez, quand on a coupé court, c'est du jour au lendemain, plus personne. Même pas au téléphone. C'est fini. Par contre, lui, il en a profité quand même, hein. Parce qu'il a radicalisé et il a emmené l'un des fils de cette voisine tunisienne en Irak.
Et il fascinait. Il fascinait, lui, Boubacar.
Vous savez, il fascinait, mais c'est ça, en fait. C'est le manque. C'est le manque de la religion. C'est qu'ils ne connaissent pas la religion, je peux vous l'assurer. Ils ne connaissent pas la religion. Ils ne la connaissent pas. Ils ne l'ont pas étudiée auparavant. Et ce qui fait que, quand, vous savez, quand on ne connaît pas quelque chose, qu'on n'est pas cultivé, malheureusement, eh ben, quand on va venir vous dire « Tu sais, le prophète, il a dit ça, ça, ça. Bah, » bien sûr que tu vas le croire. Enfin, tu ne connais pas. Non, il faut aller chercher.
Et pourtant, il étudiait beaucoup, vous disiez, vous écrivez, c'est intéressant qu'il était assis avec les 2 jambes allongées, qui était une position traditionnelle hein, pour étudier le camp. Il étudiait beaucoup quand même, il lisait beaucoup.
Énormément. Mais aussi quand il étudiait, il faut dire que quand il lisait des livres, déjà c'est des livres qui étaient interdits à la vente en France.
Oui.
Donc vous pouvez comprendre le contexte des livres. Donc c'est pas des livres qui sont un peu...
Oui, c'est ça.
On va dire c'est pas un islam, voilà. Et en même temps, il lisait extrêmement vite. Donc moi je vais vous dire ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il prenait ce qu'il avait envie de prendre.
Oui.
Voilà, c'est encore dans le même...
Oui, c'est toujours, oui, Magalissère.
Moi, je crois qu'au sein de la filière des Buttes-Chaumont, auprès des jeunes, il fascinait surtout par sa violence, plus que par son savoir religieux. C'est quand même le premier qui est parti en Syrie, en Irak, qui a fait le djihad, qui est revenu, qui a lancé cet appel à un moment donné à tous ses potes du 19e pour le rejoindre en Irak. Donc, il fascinait parce qu'il faisait peur, Boubacar Al-Hakim. Il y avait encore cette violence et cette colère qui faisait qu'il marquait les esprits et qu'il créait un peu un cordon autour de lui.
Oui.
Voilà,
Il avait un visage assez impressionnant d'ailleurs.
Ah oui, oui. Tout à fait. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Bien sûr.
Qui vous faisait peur.
Bien sûr. Vous savez que mon compagnon d'aujourd'hui, quand je l'ai connu en 2019, et un jour je lui ai dit, écoute, je vais te montrer mon frère. Et je vais sur Google, donc c'est pas compliqué.
Ça, tous les auditeurs peuvent le trouver sur Google.
Et je peux vous dire que mon mari l'a fait. Waouh, c'est lui là? Je fais ouais. Il m'a dit, t'as grandi avec lui? Ouais.
Et il cultivait cette mise en scène de sa propre violence, non? Il était comme ça.
De toute façon, s'il n'a pas ça, s'il n'a pas la violence, qu'est-ce qu'il a d'autre, en réalité?
Pas la raison.
Est-ce qu'il a quelque chose à part ça? Est-ce qu'il est cultivé? Est-ce qu'il connaît bien sa religion? Est-ce qu'il est aimant? Est-ce qu'il a de la sagesse? Pas du tout. S'il ne va pas être connu et aimé par sa violence, en quoi il va être connu, mis à part la violence?
Allez, oui, Planex. Il y a un certain nombre de cas équivalents d'hommes... très traversée par une violence comportementale, disons, elle est variée. Si je prends Ben Daoud, qui était le logeur de Daesh, qui était également incapable de se tenir, par exemple, en audience, on les voit beaucoup, ils ont beaucoup de mal à se contenir. Il faut, là, être soumis, posé, silencieux, respectueux. C'est la pire position.
Prendre la distance.
Parce que ça implique que vous ne soyez pas au centre et que vous n'ayez pas à dicter le tempo. Et ce qu'on a appelé une époque, évidemment... un peu dans le folklore islamo-racaille, ou en fait caïds, sont un peu des caïds de l'islam, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont relativement insupportables et qui ne se socialisent pas autrement, hein. Par exemple Mera, plus personne ne voulait travailler avec lui, même pour faire des braquages, parce que c'était ingérable, tyrannisant, qu'il valait mieux se mettre à distance. Donc ces gens finalement n'ont pas vraiment de groupe et trouvent cette place seulement par ceux à qui ils peuvent imposer leur violence, d'où la terreur domestique. Mais ce qui frappe aussi, c'est l'impunité avec laquelle se construit ce parcours pendant des années et des années, et l'absence criante des services sociaux et des
alors, on va revenir
sur la possibilité d'intervention.
On va revenir sur les services sociaux et surtout leur absence. Vous dites, vous avez une expression, Fatma, vous dites « mon frère a braqué ma vie ». C'est pour ça que je pensais à ce que vient de nous dire Ariel Plex. « Mon frère a braqué ma vie ».
Elle s'est arrêtée. Elle s'est réellement arrêtée. Moi, je revis, en fait.
Aujourd'hui, à 11 ans, vous arrêtez l'école.
Exactement.
Et comme ça, personne ne bouge, aucun, les services de l'inspection, d'académie, la protection de l'enfance, la police, personne ne bouge. Vous n'allez plus à l'école, vous êtes enfermé chez vous.
Tout à fait.
Et votre vie s'arrête.
Oui. Et j'ai envie de vous dire, ma vie, elle s'est arrêtée en très long moment, parce qu'il faut savoir qu'après ma déscolarisation, on m'a mariée à Peter Sheriff. Après, j'ai fugué, je suis rentrée dans l'alcool. Après, je me suis mise avec mon cousin, donc j'ai eu deux enfants. Je suis très fière et très contente d'avoir eu ces deux enfants. Mais ça reste toujours, j'étais quand même, j'ai pas vécu. Pour moi, j'ai pas vécu. Vous savez, moi...
D'autres prenaient la direction de votre vie.
Exactement. Et vous savez quoi ? Je vais vous dire vraiment, hein, vraiment ce que je ressens. J'ai commencé à vivre en 2019. Réellement.
Et quel âge aviez-vous ?
Il n'y a pas longtemps, en fait. J'avais... Là, j'ai 33, donc...
29 ans.
28 ans, oui. 28
j'ai commencé à vivre à ce moment-là, quand j'ai connu l'amour, le vrai, et que j'ai fait ce vrai choix, en fait, d'être avec cet homme. Quand il n'y avait plus d'addiction dans ma vie, plus d'alcool, plus de drogue. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à goûter à la vie.
Et goûter et rechercher la normalité, on a l'impression.
Exactement. Mais moi, aujourd'hui, je... Oh, mais j'adore, en fait, regarder la télé, j'adore sortir. Des fois, à 21h, 22h, il fait froid dehors, faire un petit tour devant la maison. J'adore faire ça. Pour moi, c'est quelque chose dont je n'avais pas le droit. Donc aujourd'hui, je croque vraiment la vie, mais entièrement. C'est-à-dire que c'est... Il faut vraiment vivre avec moi pour le comprendre. Hein. Même quand j'en parle, je suis heureuse. Donc
voilà,
vous voyez.
Je pense que les auditeurs l'entendront aussi,
c'est
d'ailleurs.
Incroyable.
Mais ça veut dire que vous avez une expression, vous étiez dans un monde, vous étiez enfermé dans le monde des islamistes.
Oui, des radicalisés. Et j'ai envie de dire surtout du monde de Boubacar. Parce que vous n'avez pas idée à quel point notre vie tournait autour de lui. C'est incroyable, c'est impressionnant. Quand il est parti en Syrie, quand il étudiait, on vivait pour lui. Après, quand il a été arrêté en Syrie, on vivait pour lui. Et après, quand il a été ramené en France, en prison, on vivait pour lui. Et quand il est sorti, on vivait pour lui. D'ailleurs, d'où la fugue, la dernière fugue que j'ai eue, parce qu'il sortait de prison.
Donc là, vous n'avez pas supporté, vous êtes parti.
Mais bien sûr, mais le problème, c'est que notre vie, elle tournait autour de lui. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. Jusqu'en 2025, ma vie tourne à peu près autour de lui.
Oui, parce que...
C'est plutôt moi qui fais la part des choses aujourd'hui.
C'est ça, c'est ça. Bah oui, parce que vous avez une expression, en préparant cette émission, vous m'avez dit, une expression que... Vous avez dit, j'étais enfermé dans un monde, mais dans ce monde-là, il n'y avait pas grand monde.
Il n'y avait personne. Il n'y avait que lui, mais réellement. Ma mère, elle tournait autour de lui. Quand on parlait à la maison, c'était pour lui. Mais c'est incroyable. C'est vraiment extrême. C'est extrême.
Oui, moi, je retiens cette phrase de la sœur de Fatma qui disait « Ma mère, elle a eu 5 enfants, mais en fait, elle en a eu qu'un. » C'est-à-dire que c'est exactement ce que raconte Fatma. Il était au centre de tout. Et les autres enfants n'avaient pas beaucoup d'importance, finalement. Il faut le reconnaître. C'est difficile à accepter pour quand on est un enfant, mais... Sa mère n'aimait qu'un seul fils prodigue, le fils magnifique, ouais. Voilà, l'enfant roi.
Je me retourne vers l'anthropologue parmi nous, Ariel Planex. La relation de la mère avec son fils, l'enfant roi, le seul sur lequel elle peut compter, ça ne vous surprend pas dans la famille, d'une manière générale dans les familles arabo-musulmanes?
Non, mais heureusement, ça n'a pas toujours ce caractère pathologique et extrême, parce que c'est un sujet de fond qui était abordé avant la question de dans la sociologie des familles maghrébines, etc., des grappes de migration et de ce que ça a comme influence éventuelle sur la socialisation, sur l'évolution scolaire, etc. Donc heureusement, ça se passe. On a tous les cas de figure. Vous êtes un exemple intéressant, pardon, de le présenter comme ça, mais aussi parce que au sein d'une même famille, vous incarnez une trajectoire différente. Là où on va penser des trajectoires familiales. Alors,
vous faites mentir les statistiques. Vous faites mentir cette vision d'une famille où tout le monde va être embrigadé. Vous n'avez pas voulu être embrigadé.
Tout à fait.
Disons qu'il est classique à propos du djihadisme français de considérer d'abord les familles comme des ensembles dysfonctionnels. Hein, c'est comme ça qu'on mentionne. Donc c'est effectivement le père absent. Or vous, c'est intéressant parce qu'il y a un père, mais il est absent.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est fantomatique comme Exactement. Figure. Et pourtant, il est là, il est même juste à côté. Il y a quelque chose qui ne s'est pas joué, qui est problématique, et, évidemment, parce que la présence du père, sur le plan symbolique, elle est la capacité de transmission, l'obligation du fils de partir, de quitter la maison, et de prendre acte de la société extérieure. Et là, on a un défaut de castration symbolique, comme on dit en psychanalyse, qui était très, très fort et très problématique. Ça a l'air de rien, mais il faut imaginer que vraiment, dans la petite enfance et le système éducatif, il y a une prise à faire pour que les situations ne soient pas de violence familiale, etc. Mais on a d'autres cas classiques, si j'ose dire, de famille où l'homme, ou l'aîné, ou bien le dernier, un des enfants, devient le leader de toute la famille et emporte toute la famille Bekaled, célèbre famille djihadiste de Lyon, où le dernier Reda, et là, toute la famille a été condamnée pour AMT, donc pour fait de terrorisme, et trois sont morts sur zone, et la famille Tarawidat dans le nord, à Roubaix, 26 membres d'une même famille et d'une collectivité emmenés par le dernier, dont la mère qui a appris en étant dans l'avion qu'elle se rendait en Turquie puis en Syrie seulement. Donc on a des tyrans domestiques, on a beaucoup de cas de figure évidemment, avec une forme d'emprise sectaire, simili-sectaire disons, sur la famille, au nom d'un islam qui est à la fois mal maîtrisé mais marginal, et qui permet de couvrir tous les conflits, y compris les conflits internes sur la sexualité, l'obsession des femmes, l'homosexualité, la peur panique ou des faits d'inceste, etc. Enfin voilà, donc vous n'avez pas tout.
Vous cochez beaucoup de cases, pas toutes, mais beaucoup de cases, Fatma.
La coprésence de normes extrêmes, vous parliez de rentrer dans la normalité. Dans votre famille, on a une fille de 11 ans qui porte un jilbab noir et un dealer de drogue, puis ensuite une consommation intensive de cocaïne, un discours extrêmement moralisateur avec une famille proche de Henarda, etc., et de l'influence des frères musulmans et du Tablir, mais avec un père totalement absent et un enfant tyran qui s'arroge tout le pouvoir, mais qui n'a jamais rien acquis ni conquis comme fait.
C'est ça.
Vous retrouvez dans cette description.
C'est incroyable. Vraiment. Une famille pleine de contradictions.
C'est exactement, c'est très contradictoire. Et c'est vrai qu'on a tous pris des chemins différents. On a tous eu une chute à un moment donné dans notre vie. On n'a pas rebondi de la même façon.
Est-ce que ce n'était pas un passage obligé de passer par cette errance que vous avez eue, alcool, drogue,
moi,
etc.
En toute honnêteté, je le dis, je ne suis pas en train d'inciter les gens à le faire. Bien au contraire, c'est très mauvais pour la santé, il ne faut pas. Mais moi, c'est ce qui m'a sauvée.
Ah oui.
Ah oui. Ah oui, totalement. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est mon ressenti. Si je n'aurais pas, à un moment donné, plongé dans l'alcool et dans la cocaïne, malheureusement, la réalité me faisait très très peur. Et j'ai plongé dans ça pendant 2 ans et demi. Mais il faut savoir qu'en même temps, quand j'étais en plein dedans, je le disais toujours à mon entourage. Mais moi, ça ne va pas durer ça. Je savais que ça n'allait pas durer. J'avais juste besoin d'une première porte de stabilité. Et ça, je l'ai eu en rencontrant mon conjoint actuel. C'est à ce moment-là, et quand j'ai eu mon premier appartement. C'est ce qu'il me fallait, mon petit chez-moi, mon petit cocon.
Mais vous aviez besoin de passer par ce moment, et vous dites que vous avez, au bout du bout, même quand vous étiez dans les boîtes de nuit jusqu'au petit matin, vous saviez qu'il y avait une limite au-delà de laquelle il fallait pas aller.
Je savais que j'allais arrêter. Je le dis sincèrement. Ça veut dire, je peux vous dire aujourd'hui, je ne le savais pas, mais non, je suis vraiment sincère. Je savais que ça n'allait pas durer. C'était une période.
Et pourquoi il fallait passer par là ?
C'était pour ne plus voir ce qu'il y avait autour de moi. c'était pour oublier tout ça. Vous savez que moi, pendant tout ce temps-là, avec toutes les connaissances que j'avais, je peux vous dire qu'au monde de la nuit, on en a des connaissances.
Oui.
Je peux vous assurer qu'il y en a tellement de monde.
On imagine.
C'est incroyable. J'ai jamais parlé de ma famille. De tout ce dont je parlais, c'était que j'avais deux enfants. Et on me disait tout le temps, « Oh, mais t'es pas gentil. Oh, t'as pas tes enfants avec toi. » Mais j'ai envie de vous dire, heureusement, je sais pas, d'avoir une mère alcoolique, d'avoir une mère qui prend de la cocaïne, c'est bien ça ? Pas du tout. Je les ai laissés dans un bon environnement, avec leur grand-mère. Ils ont grandi au sein de leur famille paternelle. Ça reste leur famille, même si aujourd'hui, je ne suis plus avec le papa. Mais heureusement pour moi. Et j'ai aussi envie de dire quelque chose. Tous ceux qui prennent de la drogue peuvent arrêter un jour. Parce que quand je vous dis que pendant 2 ans, j'en prenais une quantité excessive, c'est réel. Si on m'aurait connu avant, vous m'aurez dit, c'est impossible que tu pourras t'en sortir. Mais j'ai envie de dire à tout le monde que vous pouvez arrêter du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin de diminuer la quantité, que vous pouvez le faire du jour au lendemain si vous le voulez.
Mais ça, vous n'avez pas eu de crise de manque ?
Pas du tout. Alors, je vais vous dire une chose. Quand j'ai arrêté, j'avais encore, on va dire, un petit peu. Là, il y avait une petite cheminée au premier appartement que j'ai pris. Et j'avais accroché. Donc, il y avait la télé au-dessus. Et je l'ai laissée au milieu. Et quand j'ai pris cet appartement, là, mon conjoint, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça, genre ? Mais c'est quoi, ça ?» Je lui dis « Mais tu dois le laisser. » En fait, j'avais envie de regarder cette chose, de regarder cette drogue, mais il ne fallait pas que j'y touche.
Pour vous en séparer.
Je ne voulais pas arrêter dans le sens où il ne doit plus en avoir devant moi. J'avais toujours peur. Je me disais, ben non, si je fais ça, et si un jour je vais voir quelqu'un et qu'il y en a, peut-être que je vais replonger. Je peux vous dire que j'ai pleuré. Hein. J'ai beaucoup pleuré pour ça. J'ai vraiment pleuré. Mais j'ai réussi et j'ai arrêté. Et c'est évident. Vous savez, il suffit aussi des fois de repenser au lendemain. Je peux vous dire que vous l'évitez...
Il fallait que vous passiez par cette phase extrême par
exactement.
Rapport à ce que vous aviez vécu, ou exactement ce que vous n'aviez pas vécu à la maison, pour vous en sortir.
Exactement, c'est ça.
Mais ce qui a fait plonger Fatma quand même, c'est aussi les 72 heures de garde à vue, 96 heures pardon, de garde à vue avec la DGSI. Parce que voilà, on va y revenir. Oui.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
La place d'un père, la place d'une mère dans une famille, la place de deux êtres chers sans cesser mais pour la vie, unis par leur volonté, par les sentiments en commun, simplement réunis et on craint rien, enfin c'est ce qu'on dit, mais pas toujours ce qu'on voit. J'ai demandé pourquoi, on m'a répondu c'est la vie. Puis-je donner mon avis, faut que je reste en dehors de ça. Quand l'amour se transforme en haine et qu'on se déchire devant moi, voilà ce qu'il en est. Et ce n'est pas autrement qu'on prend tant d'engouement pour l'histoire de mes tourments. Le temps évolue, j'ai fait face aux soucis, j'ai grandi. Maman est là, mais papa est parti. Et là j'ai compris que t'as préféré tourner la page. J'étais pas du voyage, dire que je te croyais au paradis. Vu que l'alcool fait des ravages, tu t'es pas rattrapé. Et sans même te retourner, je t'ai vu t'éloigner du rivage. Est-ce dû à ta vie merdique ? J'en sais trop rien, devenu alcoolique. Et tu fais du mal au tien. Combien de fois tu l'as vexé ? Combien de fois t'étais pas là ? Combien de bleus sur ses bras ? Car quand on aime, on compte pas.
Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, tout est devenu si noir. Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, il reste encore un espoir.
Oh papa, si j'avais pu, je t'aurais dit non, ne pars pas. J'étais trop petit pour comprendre, j'ai dû grandir sans toi. Même si maman s'est bien occupée de moi, il me manquait un repère, un père derrière moi. Je fermais les yeux et j'imaginais ton visage. J'avais juste que t'étais noir vu mon métissage. À l'école on me demandait ton papa il fait quoi. Les autres se marraient quand moi je ne répondais pas. Le jour où je suis tombé sur cette photo de mariage, le puzzle de ma vie a commencé son assemblage.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur une famille djihadiste en compagnie de Fatma et de Magali Serre qui ont écrit à deux mains, quatre mains, Mon frère le djihad, Daesh et moi. Et avec Ariel Planex qui est anthropologue. Alors Fatma, vous avez choisi de nous faire entendre cette chanson Repère par Sniper, mais c'est vous, il a pompé votre vie.
Ça parle d'une personne sans repère, le manque d'un père, et ben voilà le résultat. C'est ça.
Mais vous avez réussi à vous construire.
Oh, totalement. Totalement, heureusement. Ah oui.
Et où est-ce que vous avez puisé cette énergie ?
Pour me reconstruire ? Je pense que ça a été le manque de libération et ça a été aussi le manque de ne pas être à l'écoute, en fait. Aujourd'hui, j'aime bien avoir des avis, j'aime bien écouter, j'aime bien donner mon avis, j'aime tout ça. Parce que ça, on ne l'avait pas avant. On a été privé de tout ça à cause de Boubacar. Il nous a privé de donner notre simple avis, quoi, même notre pensée.
Alors, je disais que vous étiez dans un monde sans institution. C'est pas complètement vrai, parce qu'il y a un jour, ça commence comme ça, d'ailleurs, votre récit, vous êtes sur le canapé, vous êtes en train de dormir, et puis il y a une visite par la DGSI qui vous a marqué.
Bah, c'est à cause de ça, d'ailleurs, ma chute dans la drogue.
Et vous auriez pu vous en sortir sans cette garde à vue ?
Ah oui. Parce que, en vrai, quand on m'a auditionné, enfin, je comprends que c'est les services, qu'il fallait, qu'ils devaient faire ça. Je le comprends. Je parle de moi, de ma personne. J'avais pas besoin de ça.
Oui.
Réellement. Et en plus, c'était la semaine où vraiment j'ai commencé à avoir un pas extraordinaire dans ma vie, où j'allais travailler, où même les week-ends, j'avais plus sorti de la night. C'est fini. J'ai commencé vraiment à plonger dans le travail.
C'est ça, vous étiez en train de vous en sortir et c'est à ce moment-là que vous êtes interpellée.
C'est à ce moment-là où je me prends une grosse claque, en plein figure.
Et vous prenez la claque parce que la DGSI, là je me retourne vers Ariel Planex, la DGSI, pour la DGSI, c'est une famille djihadiste, donc il y a tout le monde, il y a, je demande, la mère, les frères, la sœur et Fatma.
Vous savez, ce qui est le plus surprenant, c'est quand on me met les menottes et je leur dis « mais pourquoi ?» Et quand il me sort association malfaiteur et j'entends attentat, je fais waouh, attentat. Et vous savez, ce qui est impressionnant, c'est qu'au moment même, je me récapitule dans ma tête et je me dis qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ça. Et c'est incroyable. Ça a été très, 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 très dur. Ouais. Et d'ailleurs, Magali Serre, elle peut en dire sur ça.
La difficulté, justement, c'est qu'en fait, Fatma, elle est forcément associée à son frère en permanence. Mais à aucun moment, les institutions ou autres vont se dire mais c'est peut-être quelqu'un qu'il faut aussi aider avant tout.
C'est ça.
Parce qu'elle est dans cet environnement extrêmement toxique, parce qu'elle est dans l'environnement de Boubacar El-Hakim. Donc, on l'associe à Boubacar El-Hakim sans jamais se dire que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide et qu'on extrait de ce milieu-là.
Alors, c'est ce que vous dites à la juge, d'ailleurs. La juge vous auditionne et vous dites, je vous cite, « Madame la juge, moi c'est Fatma, pas Boubacar, El-Hakim, pas mes frères, pas ma mère, moi c'est moi, je ne veux pas qu'on m'associe à eux dans ce dossier. »
Tout à fait. En fait, ça c'est la juge, faut le savoir, pour la juge des enfants, pour mon neveu. Et j'arrête pas de le dire constamment. Oui, je sais que je fais partie de cette famille, j'en suis consciente. D'ailleurs, j'ai grandi avec eux, je pense.
Vous ne pouvez pas vous en libérer.
C'est normal, mes souvenirs d'enfance sont avec eux. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je peux vivre normalement. Mais je ne veux pas, quand on me parle comme si j'étais Boubacar. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis Fatma, je ne suis pas Boubacar. Je ne suis pas ma mère, je suis moi. C'est pour ça d'ailleurs que chacun a un prénom.
Voilà, voilà, Ariel Planex.
Oui, alors pour le coup, je peux restituer un petit peu le point de vue des institutions, disons, du fonctionnement. D'abord, évidemment, quand la DGSI intervient, c'est parce qu'il y a une crise et un motif d'inquiétude pour la sécurité nationale d'importance. Boubacar El-Hakim n'est pas la moitié d'un djihadiste, ça fait longtemps qu'il est dans les radars. Il s'est rendu coupable de plusieurs meurtres identifiés, je veux dire d'attentats, en Tunisie. Enfin, et la prudence est de mise, je le disais un tout petit peu, dans les systèmes familiaux qui sont engagés tous dans le djihad. On peut avoir jusqu'à une vingtaine de personnes. Et donc, en fait, pour vous expliquer ce qui se passe dans la tête des magistrats et des policiers, c'est que avant 2015, les femmes étaient traitées différemment dans leur participation au djihad et on considérait leur rôle comme celui ou bien de victime, de victime malgré elles, ou bien de personnes qui ne représentaient pas une dangerosité. Et il a fallu quelques retours de zone importants et de découvrir dans l'ombre de certains djihadistes des femmes qui les incitaient au départ, qui recrutaient des femmes mineures pour les envoyer sur zone, qui finançaient activement pour que il y a un changement de doctrine. Ce que vous avez subi, c'est le changement de doctrine, c'est-à-dire qu'on ne laissait plus rien au hasard et que tout le monde était pris dans les filets et interrogé parce qu'il fallait, et c'est assez raisonnable, on le comprend évidemment, même si c'est terrible d'en faire l'objet soi-même, il faut s'assurer de tout. Et ce que vous avez fait, c'est parfait, c'est-à-dire que le seul moyen de montrer qu'on n'est pas complice, c'est pas de louvoyer, comme beaucoup font en disant non mais bien sûr, non mais je savais, mais en même temps je pouvais pas trop faire, mais je me rendais pas compte que c'était ça. Alors ça, on vous aurait gardé encore un peu. La clarté du propos, quand on est très indifférent à la dynamique djihadiste ou qu'on la dénonce, c'est très facile en réalité. Et tous les autres flirtent avec les ambiguïtés.
Vous n'avez pas d'ambiguïté à l'égard du salafisme.
Par contre, on me l'avait sorti à la DGSI et là, il y a le monsieur qui m'auditionne et il me dit « Vous avez peut-être la taqwa, la taqia ». Je fais « Quoi ?» Et là, il me dit, oui, vous pouvez faire semblant d'aller dans des chichas et... Oh ah non, j'ai dit là, non, c'est trop là. J'ai dit non, attendez, si je porte un voile, je suis peut-être radicalisée. Et si j'en porte pas, je vais faire semblant. Je fais quoi alors?
Oui, c'est l'argument des avocats, mais vous avez raison.
Ça, ça a été le waouh, j'étais choquée.
Je dirais que la façon d'interroger est sans doute la pire. En plus, là-dessus, on ne demande pas à quelqu'un s'il dissimule, puisque s'il dissimule, c'est pas pour l'avouer tout de suite. Mais bon, mais c'est vrai qu'il y a des cas de figure de personnes qui font semblant, je vous le donne à titre d'information pour expliquer l'inquiétude, qui peuvent, on a vu des femmes assez jeunes, passer un an à faire croire qu'elles étaient totalement indifférentes au salafisme, porter des deux pièces, aller exprès boire, fumer, etc., pour reprendre ensuite leur tenue de djihadiste et préparer un attentat. D'où l'inquiétude qui n'est pas aussi absurde, même si vous avez raison.
C'est vrai.
Dans un cas, aucun cas, ça ne convient.
Puisque vous parlez au nom des institutions, Ariel Planex, j'ai envie de vous interpeller, dire comment vous expliquez que l'école, la protection de l'enfance, la brigade des mineurs passent à côté.
Alors, comme dans les cas, notamment de mineurs, par exemple, radicalisés, c'est un âge, évidemment, de la radicalisation qui est fréquent, même s'il n'est pas central ensuite dans les périodes de carrière militante, on observe beaucoup de loupés de l'institution, à détecter des formes d'emprise, des formes de violence, des formes d'inceste, si vous voulez, un parallèle. La question est que souvent, c'est sous les radars, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une dimension spectaculaire de la violence. Elle est peu donnée, elle flirte. Alors, ce qui est intéressant dans ce que, à mon avis, votre livre et votre récit met en exergue tout de suite, c'est l'incapacité des institutions à travailler avec des situations où la religion fait écran. Ah, c'est-à-dire quelqu'un, quand on met un jilbab à une fille de 11 ans, c'est illégal, c'est aussi simple que ça, c'est illégal. Donc, on intervient. Il n'y a pas besoin d'intervenir avec agressivité. Il ne s'agit pas d'un combat de civilisation. Il s'agit de faire appliquer la protection de l'enfance, la loi, la liberté, etc. Que ce soit possible, que personne n'intervienne, c'est probablement parce que tout un tas d'individus se sont dit que là, ils ne voulaient pas risquer, qu'ils allaient privilégier tel autre rapport éducatif, etc. Mais le fait est qu'on a une impunité totale. Où sont les éducateurs dans votre histoire? Où est-ce qu'ils sont? Les assistantes sociales? Vous décrivez un moment la rencontre avec une psy et vous dites, bon voilà, on n'avait pas la culture de voir des psys chez moi, mais ça fait du bien.
Oui.
Mais l'école, elle n'est pas là aussi pour intégrer tous les individus.
C'est vrai que la disparition de Fatma juste avant la sixième du système éducatif, il est quand même assez incroyable. On se demande comment ça peut se passer.
Oui.
Alors manifestement, on a quand même compris en filigrane que la mère de Fatma l'avait réinscrite à un moment donné en cinquième, enfin en tout cas un an et demi ou deux ans plus tard à cette fameuse école irakienne. Ce qui est aujourd'hui surréaliste, mais justement pour de nouveau toucher la CAF.
Exactement.
Ou les aides en fait, hein, concrètement. Mais bon, après elle a redisparu au bout d'un an, il ne s'est rien passé. Mais je pense que ça se passe encore aujourd'hui en France, ce genre,
c'est-à-dire
d'événement. On l'a vu avec, dans l'affaire de Dominique Bernard, donc le terroriste qui a assassiné Dominique Bernard, il avait des sœurs et il a réussi avec son père à les faire sortir du système scolaire en 4e, 3e aussi.
Pas longtemps là.
Et la sœur aînée, aujourd'hui, son rêve, c'est de passer son brevet des collèges.
C'est ça, parce que ce qui est très intéressant dans votre récit, Fatma, c'est que vous n'avez jamais abandonné ce rêve d'être libre, rêve d'avoir des copines, d'aller à l'école, d'apprendre. Vous dites, la première fois que je vais à l'école, c'est une bouffée de liberté, c'est un bonheur.
Oui, et j'ai envie de vous dire, j'arrive aussi autant à vivre sans tout ça autour. J'arrive à vivre sans copines, j'ai pas tellement de copines aujourd'hui. Je suis beaucoup avec mes enfants, mais énormément avec eux. Je passe tout mon temps avec eux. Si je suis contente, c'est avec eux. Si je suis triste, c'est avec eux, avec mon compagnon. Mais j'ai pas aussi besoin, ce qui est incroyable, c'est que j'ai pas besoin de gens pour vivre, en vrai. Et je pense parce que j'ai réussi, parce que tout mon parcours, je l'ai fait toute seule. Je me suis battue toute seule. Et en vrai, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être toujours entourée.
Vous en voulez pas aux institutions? Parce que vous n'avez connu que la garde à vue du côté institutionnel.
Alors,
et pas le côté protecteur.
J'ai envie de vous dire, les institutions aujourd'hui, bien sûr, en tant qu'enfant, je peux vous dire, mais j'avais la rage et la haine que personne ne m'a vue, bien sûr. J'ai aussi j'ai cette incompréhension d'être... je sais pas, dans l'immeuble où est-ce qu'on vivait, il y a trois immeubles en même temps. Donc, il y a 10 étages. Dans chaque étage, il y a 4 appartements. Et à partir du 6e, il y avait 5 appartements. Donc, je me dis, non mais attendez, si on aurait fait du bruit en tant que voisin, tout le monde l'aurait signalé. Hein.
Ils auraient appelé les flics.
Voilà. Sauf que là, personne n'a signalé à un moment donné qu'il y a une petite gamine avec un voile intégral, ça veut dire même mon visage, on le voyait pas. On sait très bien que c'était moi. On le sait, on entend ma voix et tout. Et ça, c'est vrai que ça m'énerve. ça m'énerve un peu. Et en même temps, je me dis, c'est que ma mère, elle a dû bien faire le job à côté. Donc, elle m'a bien inscrit à l'école irakienne avant même que j'y entre, carrément, juste pour avoir ce certificat de scolarité.
Alors ici, un élément qui est intéressant et qui prouve d'ailleurs votre, j'allais dire, votre authenticité, votre honnêteté par rapport à vous-même, c'est que il y a des scènes, il y a une scène que moi m'intrigue, c'est que quand Boubacar part à l'aéroport, il vous étreint en pleurant et en disant « excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait ».
C'est à la maison.
C'est
à la maison. Avant qu'il parte ce jour-là, c'est la preuve en fait, je suis désolée de le dire, c'est malheureux. Mais on le savait qu'il allait partir faire le djihad. Tout le monde le savait, ma mère le savait. Et en fait, c'est au moment où il sort, donc dans le salon, et là il me prend dans ses bras. Et j'ai envie de vous dire, j'étais contente un moment. Vraiment.
Oui, oui, mais c'est passé, tu t'as fait comprendre.
Je dois vraiment parler en toute honnêteté. J'étais contente, parce que j'ai jamais reçu ça de sa part. Mais en même temps, je me disais, oh, quel débarras quoi. Je peux vous dire que moi, tout ce qui m'importait à ce moment-là, c'est qu'ils partent et que je puisse vivre. Et même là, je ne vivais pas entièrement, mais pour moi, c'était suffisant. Parce que j'ai tellement été privée
mais
de tout.
Mais lui, il pleure, il est ému, là.
Pleurer, non. J'ai pas le...
Ah bon ?
Il est plutôt ému. Il est ému. Et après, est-ce qu'il pleurait pour moi ? Je ne sais pas, parce qu'il nous a tous pris dans ses bras. Donc, je ne sais pas pourquoi il pleurait. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais qu'il pleure pour moi, ça serait trop beau.
Ça serait trop beau.
Ouais.
Mais c'est comme vis-à-vis de votre mère. Vous gardez pour votre mère un sentiment filial.
Avec ma mère ?
Oui.
Jusqu'aujourd'hui, oui. Je n'ai pas honte de le dire.
Bien
oui,
sûr,
je l'aime.
Mais bien sûr.
Je l'aime. Et je pense que si j'arrive aujourd'hui à la détester, bah, j'aurai une vie un peu merdique.
Oui. Et il faut dire aux auditeurs qu'elle est morte dans un accident à Raqqa.
Oui. Un accident de voiture.
Oui, c'est ça. Oui, alors qu'elle était au milieu de Daesh.
Oui. Ça a été quand même assez impressionnant.
Oui.
Parce que je m'attendais vraiment à qu'on me dise « Oui, elle est morte dans un bombardement. » Et là, on me dit « Un accident de voiture. » Je fais « Quoi ?» C'est genre « Non mais sérieux quoi ? Elle est partie jusqu'à là. » Non mais bon. Après, c'est arrivé comme ça. Mais oui, j'ai toujours cette relation avec ma mère qui est très ambiguë,
alors,
mais c'est comme ça.
Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé. On avait beaucoup de choses à entendre de vous, Fatma. C'est Peter Sherif.
Oui.
Vous avez été mariée religieusement. Lui aussi, c'était pas
en deux
mots, Peter Sherif, Ariel oui. Planex.
Oui, c'est un des djihadistes également de cette filière, mais qui est parti très tôt combattre. Ce qui est fascinant dans le parcours de ces deux personnes et de cette filière notamment, ce qui est différent des autres filières qu'on a jugées à partir de 2015, c'est qu'ils sont partis très tôt s'engager dans un djihad un petit peu différent. Peter Sherif était l'un des plus recherchés. Il était à Djibouti il y a quelques années.
Il a été jugé bientôt. Mais alors, comment il s'est comporté vis-à-vis de vous, Peter Sherif ?
Alors, déjà, mes souvenirs, ils sont très vagues. J'ai vraiment comme si un blackout.
Oui,
et je pense je pense que c'est mon cerveau qui ne veut pas aussi se remémorer tout ça. J'ai toujours des souvenirs qui sont très mauvais. J'avais oublié carrément le son de sa voix. J'ai vraiment oublié. J'ai deux scènes qui sont restées en moi, en fait. C'est le jour où est-ce qu'il m'avait frappée, la première fois chez sa maman. Et malheureusement, le premier acte sexuel qui a été effectivement un viol, dont je m'en suis rendu compte des années plus tard.
Vous avez mis du temps à comprendre exactement.
C'est un viol parce que moi, je me disais, vu que j'ai pas dit non, vu que je l'ai pas repoussé, vu que je lui ai pas dit dégage, pousse-toi, bah c'est pas un viol en vrai. Et quand j'étais chez sa mère, j'étais vraiment allongée et là j'étais en train de pleurer, donc il y avait vraiment des larmes qui coulaient et il était sur moi, il le voyait et.
Oui.
Enfin, je sais pas, dans la logique, on fait pas ça,
bien
quoi.
Sûr, bien sûr. Et vous avez réussi à vous enfuir, là aussi.
Grâce à une baguette.
Expliquez-nous en deux mots et on s'arrêtera.
C'est sa mère qui oublie une baguette et c'est là où je me rends compte aussi que j'ai été séquestrée. Ça aussi, c'est une chose que je me suis rendu compte bien après. Donc, elle rentre et là, elle dit, oh merde, j'ai oublié une baguette. Et là, elle ressort, mais j'entends pas ce bruit de clé parce qu'il faut savoir, quand on est enfermé dans un petit truc, on entend tout. Et là, je prends ma valise et je pars. La liberté.
Et là, c'était un acte, premier acte de liberté que vous posez.
Mais c'est un acte aujourd'hui qui est très dur à réaliser.
Un acte qui est très dur à réaliser, un acte en même temps enthousiasmant, parce qu'il montre que vous avez jamais perdu ce goût de la liberté, Fatma. Et pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, je leur conseille de lire ce livre, Mon frère, le djihad, Daesh et moi, avec Magali Serre. Merci à tous les trois. Esprit de justice est terminé. À la technique ce soir, il y avait Alex Dang, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Laurence Genepin, une émission d'Antoine Garapon.
Thank you.